Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de 22 ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Ceci veut une explication. À 22 ans, les jeunes gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi, peut-être, sur 100 d'entre eux, s'en rencontrerait-il bien 99 qui se seraient conduits comme se conduisait Charles Grandet. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être Monsieur Grandet de Paris, pensait-il à Eugénie. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de temps qu'à Paris à se brosser les ongles et y affecter l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleur scarabée, à reflets d'or, de pailleté, de chiné, de double, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonné jusqu'en haut, à boutons d'or. Il emporta toutes les variétés de cols et de cravates en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère. Il emporta ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes, pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette et qui voyageait maritalement, ennuyeusement, en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur. Puis fort ce joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut, enfin, une cargaison de futilités parisiennes aussi complète qu'il était possible de le faire, et où, depuis la cravache qui sert à commencer un duel jusqu'au beau pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune oisif pour labourer la vie. Son père lui ayant dit de voyager seul et modestement, il était venu dans le coupé de la diligence retenue pour lui seul, assez content de ne pas gâter une délicieuse voiture de voyage commandée pour aller au-devant de son Annette, la grande dame que... etc. et qu'il devait rejoindre en juin prochain aux eaux de Baden. Charles comptait rencontrer 100 personnes chez son oncle, chasser à court dans les forêts de son oncle, y vivre enfin de la vie de château. Il ne savait pas le trouver à Saumur où il ne s'était informé de lui que pour demander le chemin de Froidfond. Mais, en le sachant en ville, il crut l'y voir dans un grand hôtel. Afin de débuter convenablement chez son oncle, soit à Saumur, soit à Froidfond, il avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable, pour employer le mot qui dans ce temps résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains. Il y avait changé de linge et mis une cravate de satin noir, combinée avec un col rond de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc. Sa montre, négligemment abandonnée au hasard dans une poche, se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d'un goût excellent. Un Parisien de la sphère la plus élevée pouvait seul et s'agencer ainsi sans paraître ridicule, et donner une harmonie de fatuité à toutes ces niaiseries, que soutenait d'ailleurs un air brave, l'air d'un jeune homme qui a de beaux pistolets, le coup sûr et honnête. Maintenant, si vous voulez bien comprendre la surprise respective des Saumurois et du jeune Parisien, voir parfaitement le vif éclat que l'élégance du voyageur jetait au milieu des ombres grises de la salle et des figures qui composaient le tableau de famille, essayez de vous représenter les Cruchot. Tous les trois prenaient du tabac et ne songeaient plus depuis longtemps à éviter ni les roupies ni les petites galettes noires qui parsemaient le jabot de leurs chemises rousses, à col recroquevillé et à plis jaunâtres. Leurs cravates molles se roulaient en cordes aussitôt qu'ils se les étaient attachées au cou. L'énorme quantité de linge qui leur permettait de ne faire la lessive que tous les 6 mois et de le garder au fond de leurs armoires laissait le temps et imprimait ses teintes grises et vieilles. Il y avait en eux une parfaite entente de mauvaise grâce et de sénilité. Leurs figures, aussi flétries que l'étaient leurs habits râpés, aussi plissés que leurs pantalons, semblaient usés, racornis et grimaçaient. La négligence générale des autres costumes, tous incomplets, sans fraîcheur, comme le sont les toilettes de province, où l'on arrive insensiblement à ne plus s'habiller les uns pour les autres, et à prendre au prix d'une paire de gants, s'accordaient avec l'insouciance des Cruchot. L'horreur de la mode était le seul point sur lequel les Grassinistes et les Cruchotins s'entendissent parfaitement. Le Parisien prenait-il son lorgnon pour examiner les singuliers accessoires de la salle, les solives du plancher, le ton des boiseries ou les points que les mouches y avaient imprimés et dont le nombre aurait suffi pour ponctuer l'encyclopédie méthodique et le moniteur? Aussitôt, les joueurs de loto levaient le nez et le considéraient avec autant de curiosité qu'ils en eussent manifesté pour une girafe. Monsieur des Grassins et son fils, auquel la figure d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l'étonnement de leurs voisins, soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable influence d'un sentiment général, soit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs compatriotes par des œillades pleines d'ironie « Voilà comme ils sont à Paris ». Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à loisir, sans craindre de déplaire au maître du logis. Grandet était absorbé dans la longue lettre qu'il tenait, et il avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table, sans se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Elle respirait avec délice les parfums exhalés par cette chevelure si brillante, si gracieusement bouclée. Elle aurait voulu pouvoir toucher la peau blanche de ses jolis gants fins. Elle enviait les petites mains de Charles, son teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses traits. Enfin, si toutefois cette image peut résumer les impressions que le jeune élégant produisit sur une ignorante fille, sans cesse occupée à rapetasser des bas, à ravauder la garde-robe de son père, et dont la vie s'était écoulée sous ses crasseux lambris, sans voir dans cette rue silencieuse plus d'un passant par heure, la vue de son cousin fit sourdre en son cœur les émotions de fine volupté que causent à un jeune homme les fantastiques figures de femmes dessiné par Westall dans les keepsakes anglais et gravé par les Finden d'un burin si habile qu'on a peur, en soufflant sur le velin, de faire envoler ses apparitions célestes. Charles tira de sa poche un mouchoir brodé par la grande dame qui voyageait en Écosse. En voyant ce joli ouvrage fait avec amour pendant les heures perdues pour l'amour, Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il allait bien réellement s'en servir. Les manières de Charles, ses gestes, la façon dont il prenait son orgnon, son impertinence affectée, son mépris pour le coffret qui venait de faire tant de plaisir à la riche héritière et qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou ridicule, Enfin, tout ce qui choquait les Cruchot et les des Grassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix des cousins. Les numéros se tiraient fort lentement, mais bientôt le loto fut arrêté. La grande Nanon entra et dit tout haut « Madame, va falloir me donner des draps pour faire le lit à ce monsieur. » Madame Grandet suivit Nanon. Madame des Grassins dit alors à voix basse « Gardons nos sous et laissons le loto. » Chacun reprit ses deux sous dans la vieille soucoupe écornée où il les avait mis. Puis l'assemblée se remua en masse et fit un quart de conversation vers le feu. « Vous avez donc fini ?» dit Grandet sans quitter sa lettre. « Oui, oui, » répondit Madame des Grassins en venant prendre place près de Charles. Eugénie, mue par une de ces pensées qui naissent au cœur des jeunes filles quand un sentiment s'y loge pour la première fois, quitta la salle pour aller aider sa mère et Nanon. Si elle avait été questionnée par un confesseur habile, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère ni à Nanon, mais qu'elle était travaillée par un poignant désir d'inspecter la chambre de son cousin pour s'y occuper de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout prévoir, afin de la rendre, autant que possible, élégante et propre. Eugénie se croyait déjà seule capable de comprendre les goûts et les idées de son cousin. En effet, elle arriva fort heureusement pour prouver à sa mère et à Nanon, qui revenaient pensant avoir tout fait, que tout était à faire. Elle donna l'idée à la grande Nanon de bassiner les draps avec la braise du feu. Elle couvrit elle-même la vieille table d'un napperon et recommanda bien à Nanon de changer le napperon tous les matins. Elle convainquit sa mère de la nécessité d'allumer un bon feu dans la cheminée et détermina Nanon à monter, sans en rien dire à son père, un gros tas de bois dans le corridor. Elle courut chercher dans des encoignures de la salle un plateau de vieux lac qui venait de la succession de feu le monsieur de la Bertelière. Il prit également un verre de cristal à 6 pans, une petite cuillère dorée, un flacon antique où étaient gravés des amours, et mit triomphalement le tout sur un coin de la cheminée. Il lui avait plus surgi d'idées en un quart d'heure qu'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au monde. « Maman, » dit-elle, « jamais mon cousin ne supportera l'odeur d'une chandelle si nous achetions de la bougie. » Elle alla, légère comme un oiseau, tirer de sa bourse l'écu de 100 sous qu'elle avait reçu pour ses dépenses du mois. « Tiens, Nanon, » dit-elle, « va vite. » « Mais que dira ton père ?» Cette objection terrible fut proposée par Madame Grandet en voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux sèvres rapporté du château de Froidfond par Grandet. « Et où prendras-tu donc du sucre ? Es-tu folle ?»« Maman, Nanon achètera aussi bien du sucre que de la bougie. »« Mais ton père ! Serait-il convenable que son neveu ne pût boire un verre d'eau sucrée ? D'ailleurs, il n'y fera pas attention. »« Ton père voit tout !» dit Madame Grandet en hochant la tête. Nanon hésitait, elle connaissait son maître. « Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma fête !» Nanon laissa échapper un gros rire en entendant la première plaisanterie que sa jeune maîtresse eût jamais faite, et lui obéit. Pendant que Eugénie et sa mère s'efforçaient d'embellir la chambre destinée par M. Grandet à son neveu, Charles se trouvait l'objet des attentions de Madame des Grassins, qui lui faisait des agaceries. « Vous êtes bien courageux, monsieur, lui dit-elle, de quitter les plaisirs de la capitale pendant l'hiver pour venir habiter Saumur. Mais si nous ne vous faisons pas trop peur, vous verrez que l'on peut encore s'y amuser. » Elle lui lança une véritable œillade de province, où, par habitude, les femmes mettent tant de réserve et de prudence dans leurs yeux qu'elles leur communiquent la friande concupiscence particulière à ceux des ecclésiastiques, pour qui tout plaisir semble ou un vol ou une faute. Charles se trouvait si dépaysé dans cette salle, si loin du vaste château et de la fastueuse existence qu'il supposait à son oncle, qu'en regardant attentivement Madame des Grassins, il aperçut enfin une image à demi effacée des figures parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espèce d'invitation qui lui était adressée et il s'engagea, naturellement, une conversation dans laquelle Madame des Grassins baissa graduellement sa voix pour la mettre en harmonie avec la nature de ses confidences. Il existait chez elle et chez Charles un même besoin de confiance. Aussi, après quelques moments de causerie coquette et de plaisanterie sérieuse, la droite provinciale put-elle lui dire, sans se croire entendue des autres personnes qui parlaient de la vente des vins, dont s'occupait en ce moment tout le Saumurois, « Monsieur, si vous voulez nous faire l'honneur de venir nous voir, vous ferez très certainement autant de plaisir à mon mari qu'à moi. Notre salon est le seul dans Saumur où vous trouverez réunis le haut commerce et la noblesse. Nous appartenons aux deux sociétés qui ne veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y amuse. Mon mari, je le dis avec orgueil, est également considéré par les uns et par les autres. Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre séjour ici. Si vous restiez chez Monsieur Grandet, que deviendriez-vous, bon Dieu ? Votre oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses provins. Votre tante est une dévote qui ne sait pas coudre deux idées. Et votre cousine est une petite sotte, sans éducation, commune, sans dot, et qui passe sa vie à raccommoder des torchons. Elle est très bien, cette femme, se dit en lui-même Charles Grandet, en répondant aux minauderies de Madame des Grassins. Il me semble, ma femme, que tu veux accaparer monsieur, dit en riant le gros et gras banquier. À cette observation, le notaire et le président dirent des mots plus ou moins malicieux. Mais l'abbé les regarda d'un air fin et résuma leurs pensées en prenant une pincée de tabac et offrant sa tabatière à la ronde. « Qui mieux que madame, dit-il, pourrait faire à monsieur les honneurs de Saumur ?»« Ah ça, comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé ?» demanda monsieur des Grassins. Je l'entends, monsieur, dans le sens le plus favorable pour vous, pour madame, pour la ville de Saumur et pour monsieur, ajouta le rusé vieillard en se tournant vers Charles. Sans paraître y prêter la moindre attention, l'abbé Cruchot avait su deviner la conversation de Charles et de madame des Grassins. Monsieur, dit enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne sais si vous avez conservé quelques souvenirs de moi. J'ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal donné par monsieur le baron de Nucingen et... Parfaitement, monsieur, parfaitement, répondit Charles, surpris de se voir l'objet des attentions de tout le monde. Monsieur et votre fils ? Demanda-t-il à madame des Grassins. L'abbé regarda malicieusement la mère. Oui, monsieur, dit-elle. Vous étiez donc bien jeune à Paris, reprit Charles en s'adressant à Adolphe. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit l'abbé. « Nous les envoyons à Babylone aussitôt qu'ils sont sevrés. » Madame des Grassins interrogea l'abbé par un regard d'une étonnante profondeur. « Il faut venir en province, » dit-il en continuant, « pour trouver des femmes de 30 et quelques années aussi fraîches que les madames, après avoir eu des fils bientôt licenciés en droit. Il me semble être encore au jour où les jeunes gens et les dames montaient sur des chaises pour vous voir danser au bal, madame, ajouta l'abbé en se tournant vers son adversaire femelle. Pour moi, vos succès sont d'hier. Oh, le vieux scélérat, se dit en elle-même madame des Grassins. Me devinerait-il donc ? Il paraît que j'aurai beaucoup de succès à Saumur, se disait Charles en déboutonnant sa redingote, se mettant la main dans son gilet et jetant son regard à travers les espaces pour imiter la pose donnée à Lord Byron par Chantrey. L'inattention du père Grandet, ou pour mieux dire, la préoccupation dans laquelle le plongeait la lecture de sa lettre, n'échappèrent ni au notaire ni au président, qui tâchait d'en conjecturer le contenu par les imperceptibles mouvements de la figure du bonhomme, alors fortement éclairée par la chandelle. Le vigneron maintenait difficilement le calme habituel de sa physionomie. D'ailleurs, chacun pourra se peindre la contenance affectée par cet homme en lisant la fatale lettre que voici. « Mon frère, Voici bientôt 23 ans que nous ne nous sommes vus. Mon mariage a été l'objet de notre dernière entrevue, après laquelle nous nous sommes quittés joyeux l'un et l'autre. Certes, je ne pouvais guère prévoir que tu serais un jour le seul soutien de la famille, à la prospérité de laquelle tu applaudissais alors. Quand tu tiendras cette lettre en tes mains, je n'existerai plus. Dans la position où j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la honte d'une faillite. Je me suis tenue sur le bord du gouffre jusqu'au dernier moment, espérant surnager toujours. Il faut y tomber. Les banqueroutes réunies de mon agent de change et de Roguin, mon notaire, m'emportent mes dernières ressources et ne me laissent rien. J'ai la douleur de devoir près de 4 millions sans pouvoir offrir plus de 25% d'actifs. Mes vins emmagasinés éprouvent en ce moment la baisse ruineuse que cause l'abondance et la qualité de vos récoltes. Dans 3 jours, Paris dira « Monsieur Grandet était un fripon ». Je me coucherai, moi, probe, dans un linceul d'infamie. Je ravis à mon fils et son nom que j'entache et la fortune de sa mère. Il ne sait rien de cela, ce malheureux enfant que j'idolâtre. Nous nous sommes dit adieu tendrement. Il ignorait, par bonheur, que les derniers flots de ma vie s'épanchaient dans cet adieu. Ne me maudira-t-il un jour ? Mon frère, la malédiction de nos enfants est épouvantable. Ils peuvent appeler de la nôtre, mais la leur est irrévocable. Grandet, tu es mon aîné, tu me dois ta protection. Fais que Charles ne jette aucune parole amère sur ma tombe. Mon frère, si je t'écrivais avec mon sang et mes larmes, il n'y aurait pas autant de douleur que j'en mets dans cette lettre. Car je pleurerais, je saignerais, je serais mort, je ne souffrirai plus. Mais je souffre et vois la mort d'un œil sec. Te voilà donc le père de Charles. Il n'a point de parents du côté maternel, tu sais pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas obéi aux préjugés sociaux? Pourquoi ai-je cédé à l'amour? Pourquoi ai-je épousé la fille naturelle d'un grand seigneur? Charles n'a plus de famille. Oh, mon malheureux fils, mon fils! Écoute, Grandet, je ne suis pas venue t'implorer pour moi. D'ailleurs, tes biens ne sont peut-être pas assez considérables pour supporter une hypothèque de 3 millions. Mais pour mon fils, sache-le bien, mon frère, mes mains suppliantes se sont jointes en pensant à toi. Grandet, je te confie Charles en mourant. Enfin, je regarde mes pistolets sans douleur en pensant que tu lui serviras de père. Il m'aimait bien, Charles. J'étais si bon pour lui. Je ne le contrariai jamais. Il ne me maudira pas. D'ailleurs, tu verras, il est doux. Il tient de sa mère. Il ne te donnera jamais de chagrin. Pauvre enfant. Accoutumé aux jouissances du luxe, il ne connaît aucune des privations auxquelles nous a condamnés l'un et l'autre notre première misère. Et le voilà ruiné, seul. Oui, tous ses amis le fuiront, et c'est moi qui serai la cause de ses humiliations. Ah, je voudrais avoir le bras assez fort pour l'envoyer d'un seul coup dans les cieux près de sa mère. Folie. Je reviens à mon malheur, à celui de Charles. Je te l'ai donc envoyé pour que tu lui apprennes convenablement et ma mort et son sort à venir. Sois un père pour lui, mais un bon père. Ne l'arrache pas tout à coup à sa vie oisive, tu le tuerais. Je lui demande à genoux de renoncer aux créances qu'en qualité d'héritier de sa mère, il pourrait exercer contre moi. Mais c'est une prière superflue, il a de l'honneur et sentira bien qu'il ne doit pas se joindre à mes créanciers. Fais-le renoncer à ma succession en temps utile. Révèle-lui les dures conditions de la vie que je lui fais. Et s'il me conserve sa tendresse, dis-lui bien en mon nom que tout n'est pas perdu pour lui. Oui, le travail qui nous a sauvés tous deux peut lui rendre la fortune que je lui emporte. Et s'il veut écouter la voix de son père, qui pour lui voudrait sortir un moment du tombeau, qu'il parte, qu'il aille aux Indes. Mon frère, Charles est un jeune homme probe et courageux. Tu lui feras une pacotille. Il mourrait plutôt que de ne pas te rendre les premiers fonds que tu lui prêteras. Car tu lui en prêteras, Grandet. Sinon, tu créerais des remords. Ah, si mon enfant ne trouvait ni secours ni tendresse en toi, je demanderais éternellement vengeance à Dieu de ta dureté. Si j'avais pu sauver quelques valeurs, j'avais bien le droit de lui remettre une somme sur le bien de sa mère. Mais les paiements de ma fin du mois avaient absorbé toutes mes ressources. Je n'aurais pas voulu mourir dans le doute sur le sort de mon enfant. J'aurais voulu sentir de saintes promesses dans la chaleur de ta main qui m'eût réchauffé. Mais le temps me manque. Maintenant que Charles voyage, je suis obligée de dresser mon bilan. Je tâche de prouver par la bonne foi qui préside à mes affaires qu'il n'y a dans mes désastres ni faute ni improbité. N'est-ce pas m'occuper de Charles ? Adieu, mon frère. Que toutes les bénédictions de Dieu te soient acquises pour la généreuse tutelle que je te confie et que tu acceptes, je n'en doute pas. Il y aura sans cesse une voix qui priera pour toi dans le monde où nous devons aller tous un jour et où je suis déjà. Victor Ange Guillaume Grandet. Vous causez donc, dit le père Grandet en pliant avec exactitude la lettre dans les mêmes plis et la mettant dans la poche de son gilet. Il regarda son neveu d'un air humble et craintif, sous lequel il cacha ses émotions et ses calculs. « Vous êtes-vous réchauffé ?»« Très bien, mon oncle. »« Eh bien, où sont donc nos femmes ?» dit l'oncle, oubliant déjà que son neveu couchait chez lui. En ce moment, Eugénie et Madame Grandet rentrèrent. « Tout est-il arrangé là-haut ? » leur demanda le bonhomme en retrouvant son calme. « Oui, mon père. » « Eh bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre chambre. »« Dame, ce ne sera pas un appartement de Mirliflore, mais vous excuserez de pauvres vignerons qui n'ont jamais le sou. Les impôts nous avalent tout. »« Nous ne voulons pas être indiscrets, Grandet, » dit le banquier. « Vous pouvez avoir à jaser avec votre neveu. Nous vous souhaitons le bonsoir. À demain. » À ces mots, l'assemblée se leva. Et chacun fit la révérence suivant son caractère. Le vieux notaire alla chercher sous la porte sa lanterne et vint l'allumer en offrant aux des Grassins de les reconduire. Madame des Grassins n'avait pas prévu l'incident qui devait faire finir prématurément la soirée, et son domestique n'était pas arrivé. « Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras, madame ?» dit l'abbé Cruchot à Madame des Grassins. « Merci, monsieur l'abbé, j'ai mon fils, » répondit-elle sèchement. « Les dames ne sauraient se compromettre avec moi, » dit l'abbé. « Donne donc le bras à M. Cruchot, » lui dit son mari. L'abbé emmena la jolie dame assez lestement pour se trouver à quelques pas en avant de la caravane. « Il est très bien, ce jeune homme, madame, » lui dit-il en lui serrant le bras. « Adieu, panier, vendanges sont faites. Il vous faut dire adieu à Mademoiselle Grandet. Eugénie sera pour le Parisien. » À moins que ce cousin ne soit amouraché d'une Parisienne. Votre fils Adolphe va rencontrer en lui le rival le plus... Laissez donc, monsieur l'abbé. Ce jeune homme ne tardera pas à s'apercevoir que Génie est une niaise, une fille sans fraîcheur. L'avez-vous examinée ? Elle était ce soir jaune comme un coin. Vous l'avez peut-être fait remarquer au cousin. Et je ne m'en suis pas gênée. « Mettez-vous toujours auprès de Génie, madame, et vous n'aurez pas grand-chose à dire à ce jeune homme contre sa cousine. Il fera de lui-même une comparaison qui... D'abord, il m'a promis de venir dîner après-demain chez moi. »« Ah, si vous vouliez, madame, » dit l'abbé. « Et que voulez-vous que je veuille, monsieur l'abbé ? Entendez-vous ainsi me donner de mauvais conseils ? Je ne suis pas arrivée à l'âge de 39 ans avec une réputation sans tache. » « Dieu merci, pour la compromettre, même quand il s'agirait de l'empire du grand Mogol. Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, auquel on sait ce que parler veut dire. Pour un ecclésiastique, vous avez en vérité des idées bien incongrues. Fi, cela est digne de Faublas. »« Vous avez donc lu Faublas ?»« Non, monsieur l'abbé. Je voulais dire les liaisons dangereuses. »« Ah !» « Ce livre est infiniment plus moral, » dit en riant l'abbé. « Mais vous me faites aussi pervers que l'est un jeune homme d'aujourd'hui. Je voulais simplement vous... »« Osez me dire que vous ne songiez pas à me conseiller du laine chose. Cela n'est-il pas clair ? Si ce jeune homme, qui est très bien, j'en conviens, me faisait la cour, Il ne penserait pas à sa cousine. À Paris, je le sais, quelques bonnes mères se dévouent ainsi pour le bonheur et la fortune de leurs enfants. Mais nous sommes en province, monsieur l'abbé.
Oui, madame.
Et, reprit-elle, je ne voudrais pas, ni Adolphe lui-même ne voudrait pas de 100 millions achetés à ce prix.
Madame, je n'ai point parlé de 100 millions. La tentation eût été peut-être au-dessus de nos forces à l'un et à l'autre. Seulement, je crois qu'une honnête femme peut se permettre, en tout bien tout honneur, de petites coquetteries sans conséquence, qui font partie de ses devoirs en société et qui...
Vous croyez ?
Ne devons-nous pas, madame, tâcher de nous être agréables les uns aux autres ? Permettez que je me mouche.
Je vous assure, madame, reprit-il, qu'il vous lorgnait d'un air un peu plus flatteur que celui qu'il avait en me regardant. Mais je lui pardonne d'honorer préférablement à la vieillesse la beauté.
Il est clair, disait le président de sa grosse voix, que M. Grandet de Paris envoie son fils à Saumur dans des intentions extrêmement matrimoniales.
Mais alors, le cousin ne serait pas tombé comme une bombe, répondait le notaire.
Cela ne dirait rien, dit M. des Grassins. Le bonhomme est cachotier.
Des Grassins, mon ami, je l'ai invité à dîner, ce jeune homme. Il faudra que tu ailles prier M. et Mme de Larsonnière. Et les du Hautois, avec la belle demoiselle du Hautois, bien entendu. Pourvu qu'elle se mette bien ce jour-là. Par jalousie, sa mère la fagote si mal.
J'espère, messieurs, que vous nous ferez l'honneur de venir, ajouta-t-elle en arrêtant le cortège pour se retourner vers les deux Cruchot.
Vous voilà chez vous, madame, dit le notaire.
Après avoir salué les trois des Grassins, les trois Cruchot s'en retournèrent chez eux, en se servant de ce génie d'analyse que possèdent les provinciaux pour étudier sous toutes ses faces le grand événement de cette soirée, qui changeait les positions respectives des Cruchotins et des Grassinistes. L'admirable bon sens qui dirigeait les actions de ces grands calculateurs leur fit sentir aux uns et aux autres la nécessité d'une alliance momentanée contre l'ennemi commun. Ne devait-il pas mutuellement empêcher Eugénie d'aimer son cousin et Charles de penser à sa cousine? Le Parisien pourrait-il résister aux insinuations perfides, aux calomnies doucereuses, aux médisances pleines d'éloges, aux dénégations naïves qui allaient constamment tourner autour de lui pour le tromper?
Lorsque les quatre parents se trouvèrent seuls dans la salle, M. Grandet dit à son neveu :
Il faut se coucher. Il est trop tard pour causer des affaires qui vous amènent ici. Nous prendrons demain un moment convenable. Ici, nous déjeunons à 8 heures. À midi, nous mangeons un fruit, un rien de pain sur le pouce, et nous buvons un verre de vin blanc. Puis nous dînons, comme les Parisiens, à 5 heures. Voilà l'ordre. Si vous voulez voir la ville ou les environs, vous serez libre comme l'air. Vous m'excuserez si mes affaires ne me permettent pas toujours de vous accompagner. Vous les entendrez peut-être tous ici vous disant que je suis riche. Monsieur Grandet par-ci, Monsieur Grandet par-là, je les laisse dire. Leur bavardage ne nuise point à mon crédit. Mais je n'ai pas le sou, et je travaille à mon âge comme un jeune compagnon qui n'a pour tout bien qu'une mauvaise plaine et 2 bons bras. Vous verrez peut-être bientôt par vous-même ce que coûte un écu quand il faut le suer. Allons, Nanon, les chandelles.
J'espère, mon neveu, que vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dit Madame Grandet. Mais s'il vous manquait quelque chose, vous pourrez appeler Nanon.
Ma chère tante, ce serait difficile. J'ai, je crois, emporté toutes mes affaires. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne nuit, ainsi qu'à ma jeune cousine.
Charles prit des mains de Nanon une bougie allumée, une bougie d'Anjou, bien jaune de ton, vieillie en boutique, et si pareille à de la chandelle que M. Grandet, incapable d'en soupçonner l'existence au logis, ne s'aperçut pas de cette magnificence.
« Je vais vous montrer le chemin, » dit le bonhomme. Au lieu de sortir par la porte de la salle qui donnait sous la voûte, Grandet fit la cérémonie de passer par le couloir qui séparait la salle de la cuisine. Une porte battante garnie d'un grand carreau de verre ovale fermait ce couloir du côté de l'escalier afin de tempérer le froid qui s'y engouffrait. Mais en hiver, la brise n'en sifflait pas moins par là très rudement. Et malgré les bourrelets mis aux portes de la salle, à peine la chaleur s'y maintenait-elle à un degré convenable. Nanon alla verrouiller la grande porte, ferma la salle et détacha dans l'écurie un chien-loup dont la voix était cassée comme s'il avait une laryngite. Cet animal, d'une notable férocité, ne connaissait que Nanon. Ces deux créatures champêtres s'entendaient. Quand Charles vit les murs jaunâtres et enfumés de la cage où l'escalier à rampe vermoulue tremblait sous le pas pesant de son oncle, son dégrisement alla rinforzando. Il se croyait dans un juchoir à poules. Sa tante et sa cousine, vers lesquelles il se retourna pour interroger leur figure, étaient si bien façonnées à cet escalier que, ne devinant pas la cause de son étonnement, elles le prirent pour une expression amicale et y répondirent par un sourire agréable qui le désespéra. « Que diable mon père m'envoie-t-il faire ici ?» se disait-il. Arrivé sur le premier palier, il aperçut trois portes peintes en rouge étrusque et sans chambranle, des portes perdues dans la muraille poudreuse et garnies de bandes en fer boulonnées, apparentes, terminées en façon de flamme comme l'était à chaque bout la longue entrée de la serrure. Celle de ces portes qui se trouvait en haut de l'escalier et qui donnait entrée dans la pièce située au-dessus de la cuisine était évidemment murée. On n'y pénétrait en effet que par la chambre de Grandet, à qui cette pièce servait de cabinet. L'unique croisée d'où elle tirait son jour était défendue sur la cour par d'énormes barreaux en fer grillagés. Personne, pas même Madame Grandet, n'avait la permission d'y venir. Le bonhomme voulait y rester seul comme un alchimiste à son fourneau. Là, sans doute, quelques cachettes avaient été très habilement pratiquées. Là, s'emmagasinaient les titres de propriété. Là, pendaient les balances à peser les louis. Là, se faisaient nuitamment et en secret les quittances, les reçus, les calculs, de manière que les gens d'affaires, voyant toujours Grandet prêt à tout, pouvaient imaginer qu'il avait à ses ordres une fée ou un démon. Là, sans doute, quand Nanon ronflait à ébranler les planchers, quand le chien-loup veillait et bâillait dans la cour, quand Mademoiselle et Madame Grandet étaient bien endormies, venait le vieux tonnelier choyer, caresser, couver, cuver, cercler son or. Les murs étaient épais, les contrevents discrets. Lui seul avait la clé de ce laboratoire, où, dit-on, il consultait des plans sur lesquels ses arbres à fruits étaient désignés et où il chiffrait ses produits à un provin, à une bourrée près. L'entrée de la chambre de génie faisait face à cette porte murée. Puis, au bout du palier, était l'appartement des deux époux qui occupaient tout le devant de la maison. Madame Grandet avait une chambre contiguë à celle de génie, chez qui l'on entrait par une porte vitrée. La chambre du maître était séparée de celle de sa femme par une cloison et du mystérieux cabinet par un gros mur. Le père Grandet avait logé son neveu au second étage, dans la haute mansarde située au-dessus de sa chambre, de manière à pouvoir l'entendre s'il lui prenait fantaisie d'aller et de venir. Quand Eugénie et sa mère arrivèrent au milieu du palier, elles se donnèrent le baiser du soir, puis, après avoir dit à Charles quelques mots d'adieu, froid sur les lèvres, mais certes chaleureuse au cœur de la fille, elles rentrèrent dans leur chambre. « Vous voilà chez vous, mon neveu, » dit le père Grandet à Charles en lui ouvrant sa porte. « Si vous aviez besoin de sortir, vous appelleriez Nanon. Sans elle, votre serviteur, le chien vous mangerait sans vous dire un seul mot. Dormez bien, bonsoir. »« Ah, ces dames vous ont fait du feu, » reprit-il. En ce moment, la grande Nanon apparut, armée d'une bassinoire. « En voilà bien d'une autre, » dit M. Grandet. « Prenez-vous, mon neveu, pour une femme en couche. Veux-tu bien remporter ta braise, Nanon ?»« Mais, monsieur, les draps sont humides, et ce monsieur est vraiment mignon comme une femme. »« Allons, va, puisque tu l'as dans la tête, » dit Grandet en la poussant par les épaules. « Mais prends garde de mettre le feu. » Puis l'avare descendit en grommelant de vagues paroles. Charles demeura pantois au milieu de ses mâles. Après avoir jeté les yeux sur les murs d'une chambre en mansarde, tendue de ce papier jaune à bouquets de fleurs qui tapissent les guinguettes, sur une cheminée en pierre de liais cannelée dont le seul aspect donnait froid, sur des chaises de bois jaune garnies en canne vernissée et qui semblaient avoir plus de 4 angles, sur une table de nuit ouverte dans laquelle aurait pu tenir un petit sergent de voltigeur, sur le maigre tapis de lisière placé au bas d'un lit à ciel dont les pentes en drap tremblaient comme si elles allaient tomber, achevées par les vers. Il regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit « Ah ça, ma chère enfant, suis-je bien chez Monsieur Grandet, l'ancien maire de Saumur, frère de Monsieur Grandet de Paris ?»« Oui, monsieur, chez un bain aimable, un bain doux, un bain parfait, monsieur. » « Faut-il que je vous aide à défaire vos mâles ?»« Ma foi, je le veux bien, mon vieux troupier. N'avez-vous pas servi dans les marins de la garde impériale ?»« Oh, oh, oh !» dit Nanon. « Quoi que c'est que ça, les marins de la garde ? C'est-il salé ? Ça va-t-il sur l'eau ?»« Tenez, cherchez ma robe de chambre qui est dans cette valise. En voici la clé. » Nanon fut tout émerveillée de voir une robe de chambre en soie verte, à fleurs d'or et à dessins antiques. « Vous allez mettre ça pour vous coucher ?» dit-elle. « Oui. » « Sainte Vierge, le beau devant d'autel que ça ferait pour la paroisse. Mais, mon cher mignon monsieur, donnez donc ça à l'église, vous sauverez votre âme, tandis que ça vous la fera perdre. Oh, que vous êtes donc gentil comme ça. Je vais appeler mademoiselle pour qu'elle vous regarde. » « Allons, Nanon, puisque Nanon y a. Voulez-vous vous taire ? Laissez-moi coucher, j'arrangerai mes affaires demain. Et si ma robe vous plaît tant, vous sauverez votre âme. Je suis trop bon chrétien pour vous la refuser en m'en allant, et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. » Nanon resta plantée sur ses pieds, contemplant Charles, sans pouvoir ajouter foi à ses paroles. « Me donner ce bel atour ? » dit-elle en s'en allant. « Il rêve déjà, ce monsieur. » « Bonsoir.
Bonsoir, Nanon. »«
Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» se dit Charles en s'endormant. « Mon père n'est pas un niais. Mon voyage doit avoir un but. »« Pshh, à demain les affaires sérieuses, » disait je ne sais quel ganache grec. « Sainte Vierge, qu'il est gentil, mon cousin !» se dit Eugénie en interrompant ses prières, qui ce soir-là ne furent pas finies. Madame Grandet n'eut aucune pensée en se couchant. Elle entendait, par la porte de communication qui se trouvait au milieu de la cloison, l'avare se promenant de long en large dans sa chambre. Semblable à toutes les femmes timides, elle avait étudié le caractère de son seigneur. De même que la mouette prévoit l'orage, elle avait, à d'imperceptibles signes, pressenti la tempête intérieure qui agitait Grandet. Et, pour employer l'expression dont elle se servait, elle faisait alors la morte. Grandet regardait la porte intérieurement doublée en tôle qu'il avait fait mettre à son cabinet, et se disait « Quelle idée bizarre a eu mon frère de me léguer son enfant, jolie succession! Je n'ai pas 20 écus à donner. Mais qu'est-ce que 20 écus pour ce mirliflore qui lorgnait mon baromètre comme s'il avait voulu en faire du feu ?» En songeant aux conséquences de ce testament de douleur, Grandet était peut-être plus agité que ne l'était son frère au moment où il le traça. « J'aurai cette robe d'or, » disait Nanon qui s'endormit, habillée de son devant d'autel, rêvant de fleurs, de tabis, de damas, pour la première fois de sa vie. Comme Eugénie rêva d'amour.